journal de la mi-journée.
Bonjour, les étrangers admis en Suisse provisoirement pourront toujours faire venir leurs proches. Le Conseil des États a dit non ce matin au tour de vis du national sur la question du regroupement familial. Le canton de Vaud appelle les médecins à la vigilance après la cyberattaque qui a touché le groupe Vidimed il y a 10 jours. Les dossiers des patients ne peuvent être consultés dans leur ensemble. Il part pour les Grisons, le patron de la banque Raiffeisen, deuxième banque du pays, s'en va pour présider la banque cantonale des Grisons. Démission surprise. Une toile sur la Piazza Grande à Locarno, ce sera peut-être bientôt en juillet plutôt qu'en août. La direction du festival pense à avancer l'événement pour lui éviter la torpeur et la moindre visibilité du mois d'août. Pas dans mon jardin, les Fribourgeois sont vent debout contre les projets de gravière. Les députés du Parlement cantonal se sont entendus hier pour mieux les encadrer. Dans ce journal aussi, la désolation à Mayotte qui a passé une nuit sous couvre-feu pour éviter les pillages. Des nouvelles du Vendée Globe, nous irons au bout du monde avec Alain Roura qui nous raconte les creux de 8 mètres qu'il affronte. Et puis c'est un chien bleu facétieux Bluey, dessin animé australien au succès mondial. Il sera bientôt adapté au cinéma. Dans 20 minutes, de la bande dessinée, l'histoire d'un auteur à succès et d'une journaliste indépendante. Ils vont traverser la Bretagne par un été caniculaire pour mieux comprendre les pressions qui pèsent sur l'eau douce. Christian Baudu, documentariste français, auteur de L'urgence de l'eau, est notre invité dans 20 minutes. Météo, des nuages et des éclaircies jusqu'à 10 degrés en plaine. Vous avez le programme. On est ensemble jusqu'à 13h. Les étrangers admis provisoirement en Suisse pourront encore faire venir leur famille proche. C'est ce qu'a décidé ce matin le Conseil des États. Il ne souhaite pas empêcher le regroupement familial, contrairement à ce qu'a demandé le Conseil national. Phileas Sautier, vous avez suivi les débats à Berne ce matin. Qu'est-ce qui motive cette décision ?
Le droit à la vie familiale, notamment, c'est un argument qui a été avancé lors de la discussion de tout à l'heure. La vie familiale est protégée par la Constitution, par la Convention européenne des droits de l'homme. Et aux yeux de la majorité du Conseil des États, supprimer le regroupement familial pour les personnes admises provisoirement, ce serait contraire à ce droit fondamental. Les partisans du texte venus de l'UDC soulignent, eux, que des personnes admises provisoirement ne devraient pas rester durablement sur notre territoire. Et donc, elles ne devraient pas avoir droit de faire venir leurs enfants et leurs conjoints. Ces dernières années, concrètement, c'est un peu plus d'une centaine de personnes par an qui arrivent en Suisse par ce biais.
Et concrètement, combien de temps les admis provisoires restent-ils en Suisse ?
Alors c'est variable, mais ça peut durer plusieurs années. Ce sont des personnes qui devraient être renvoyées de Suisse, mais le renvoi est impossible, par exemple à cause d'une guerre civile dans leur pays d'origine. Et cette situation peut durer pendant longtemps. Actuellement, les admis provisoires peuvent faire venir leur famille proche après 3 ans, pour autant qu'ils ne dépendent pas de l'aide sociale notamment. Ces règles seront donc maintenues, a décidé le Conseil des États il y a quelques minutes. Il maintient le regroupement familial à une courte majorité, 20 voix contre 18.
Phileas Sautier en direct de Berne, merci. La cyberattaque qui a touché le groupe Vidimed il y a 10 jours n'est pas sans conséquence sur le suivi des patients. Les dossiers médicaux ne peuvent plus être consultés dans leur ensemble et selon nos informations, Vidimed et le canton appellent tous les médecins de premier recours et les pharmaciens vaudois à la vigilance, Céline Tso.
Oui, c'est une lettre qui a été envoyée ce lundi, soit 9 jours après l'attaque informatique. Le directeur médical de Vidimed, appuyé par les services du médecin cantonal, explique dans ce document que l'accès aux dossiers des patients de Vidimed n'est toujours pas garanti et que donc, il n'est pas possible d'avoir connaissance de l'ensemble d'un dossier médical, par exemple des derniers examens réalisés ou des antécédents d'un patient. Du coup, les médecins et pharmaciens vaudois sont appelés à faire preuve de vigilance dans le suivi de leur patientèle. Vidimed et le canton affirment toutefois que la sécurité de la prise en charge des patients est assurée dans les urgences et les 4 centres du groupe.
Céline, est-ce qu'il y a eu des conséquences graves depuis le 7 décembre, depuis la cyberattaque ?
Alors Vidimed assure qu'il n'y a eu aucune erreur médicale depuis cette cyberattaque et que ce courrier a été envoyé davantage par précaution qu'à cause de véritables problèmes médicaux. Ce que confirme le canton qui note que dans cette affaire, il est là en soutien au groupe privé qui est, lui, visé par cette cyberattaque. Pas de conséquences graves non plus constatées du côté de la Société vaudoise des pharmacies. Dans les officines, ce manque d'accès aux dossiers médicaux provoque surtout une surcharge administrative avec, par exemple, des confirmations à faire par téléphone avec certains médecins. Pour l'heure, on ne sait pas quand les accès aux données des patients de Vidimed seront rétablis à 100%.
Céline Tso, merci. Et nous reviendrons sur cette cyberattaque à Vidimed et ses conséquences dans nos prochaines éditions. Locarno, ses films et sa Piazza Grande, les festivaliers se presseront peut-être bientôt en juillet plutôt qu'en août au Tessin. L'idée fait son chemin. Bonjour Nicole Della Pietra.
Bonjour Blandine.
La direction du Festival international du film de Locarno vient de lancer une procédure de consultation pour avancer la date du Léopard d'Or de 3 semaines. Mais pourquoi ça ?
Alors tout simplement pour favoriser la manifestation tessinoise face à ses grands concurrents comme Cannes, Venise ou Berlin, autrement dit avoir accès à des films et des stars qui pourraient préférer ces rendez-vous, ce qui avait été perçu comme une provocation de la part de la nouvelle présidente du Festival du film de Locarno, la mécène et milliardaire Maya Hoffman, pourrait donc bien se concrétiser, même si l'idée d'allumer l'écran géant symbole du festival à la mi-juillet au lieu du début du mois d'août, apparue avant même d'inaugurer son premier festival, avait fait froncer beaucoup de sourcils. La direction du festival vient d'écrire à la ville de Locarno, propriétaire de la célèbre Piazza Grande, afin de lancer une procédure de consultation. Le cas échéant, c'est donc en 2027, année de la 80e édition, que le nouveau calendrier sera introduit. Reste à surmonter une série d'obstacles, comme celle de faire coïncider le festival avec d'autres grands rendez-vous durant la même période. La ville, le tourisme, l'économie, sans oublier le public, seront consultés durant une période qui reste encore à déterminer. Terminé.
Merci Nicole Della Pietra en direct de Locarno. Direction La Chaux-de-Fonds. Après des semaines de négociations, l'entreprise allemande active dans la micromécanique Vollhaber a confirmé hier qu'elle allait fermer son site chaudfonnier fin 2025. 70 emplois sont concernés selon le syndicat Unia qui s'est indigné hier de la délocalisation de la production en Hongrie. Romain Bardet, on vous retrouve en direct de Neuchâtel et l'entreprise invoque la situation conjoncturelle et géopolitique mondiale.
Oui, Vollhaber indique avoir enregistré ces 18 derniers mois une baisse significative de ses commandes et de son chiffre d'affaires mondial. L'entreprise a donc décidé, je cite, de procéder aux adaptations nécessaires. À La Chaux-de-Fonds, le groupe fabrique depuis le début des années 2000 des moteurs électriques de précision, destinés notamment à l'industrie aérospatiale. Il va donc stopper l'année prochaine sa production sur place. Les 3 autres sites suisses de l'entreprise ne sont pas concernés.
Mais Romain, les syndicats dénoncent la fermeture d'un site jugé viable.
Oui. Dans son communiqué, Unia indique que l'entreprise est bénéficiaire. C'est ce que montre le rapport remis à la direction au terme de la période de consultation. Les emplois, écrit le syndicat, sont ainsi sacrifiés sur l'autel du rendement et du profit, tout en ajoutant que Vollhaber a pris cette décision malgré une aide substantielle que le canton proposait de lui octroyer. Unia exige maintenant un plan social qui soit, je cite, à la hauteur de la violence de l'annonce, tout en dénonçant une tendance à la délocalisation de la place industrielle suisse et neuchâteloise.
Merci Romain Bardet en direct de Neuchâtel. Et bonjour à vous Patrick Linder.
Bonjour.
Vous êtes le directeur de la Chambre d'économie publique Grand Chasseral. Vous êtes en contact permanent avec les entreprises actives dans l'industrie. Alors Vollhaber évoque une situation conjoncturelle et géopolitique difficile. Est-ce que vous comprenez cette décision de délocaliser vers l'Est sa production ?
Bien, la situation est incontestablement difficile d'un point de vue conjoncturel, une tendance baissière depuis en tout cas 2 ans, mais qui contraste clairement avec l'intensité de l'activité dans la microtechnique connue Covid et post-Covid. Donc les entreprises sortent d'une phase qui était très, très active, très positive. Elle est aujourd'hui un peu plus compliquée. Cette délocalisation ne s'explique pas exclusivement en regard de la situation conjoncturelle.
Le syndicat Unia dénonce tout de même une tendance à la délocalisation de la place industrielle. C'est pas le cas selon vous ?
Il faut en tout cas réfuter toutes les analyses qui toucheraient à une forme de désindustrialisation de la région. Dans la phase d'activité intense qu'a connue l'industrie de l'arc jurassien ces dernières années, l'enjeu premier restait tout de même de trouver les talents et les compétences nécessaires pour soutenir les performances que visaient les entreprises. Il y a aujourd'hui une espèce d'accumulation de facteurs, je l'ai dit, des grands mouvements globaux qui affectent au plan conjoncturel, mais des soucis sectoriels aussi, notamment dans l'horlogerie qui connaît une nouvelle phase d'interrogation. C'est le cas dans l'automobile aussi, puisque l'ensemble de l'écosystème de production du moteur thermique est aujourd'hui remis en question. Il suffit de penser au psychodrame Volkswagen pour l'avoir à l'esprit, ce qui engendre une série de répercussions sur l'organisation de l'industrie dans son ensemble. Ça peut se manifester notamment dans le cas de Vollhaber, qui n'est par ailleurs pas actif dans la microtechnique en tant que telle, mais c'est plutôt un acteur mécatronique qui propose des petits moteurs, des actuateurs, de l'électronique de commande. Donc ils peuvent être touchés par différents effets à ce niveau-là.
Donc c'est plus lié à un contexte mondial que vraiment à l'industrie, au tissu industriel de notre région.
C'est l'accumulation d'un contexte conjoncturel global, avec la situation particulière du positionnement de Faulhaber, l'arc jurassien reste une région industrielle. Le secteur secondaire reste la meilleure option de développement pour ces régions-là. Il prouve continuellement sa compétitivité à l'international. Rappelons que les 26 milliards d'exportations de l'horlogerie suisse s'appuient majoritairement sur les compétences industrielles qui se trouvent dans cette région.
Un outil à disposition des entreprises, c'est le chômage partiel, les fameuses RHT. Le Conseil fédéral a décidé de prolonger leur durée maximale, mais pas au-delà de juillet prochain. Est-ce que c'est suffisant ?
C'est tout l'objet de la question aujourd'hui. Selon les premières informations que nous agrégeons, non. Les premiers effets du redémarrage horloger sont attendus pour 26. Il nous semble aussi stratégique que capital de maintenir les places de travail, respectivement les compétences progressivement construites par les entreprises, en tout cas jusqu'au début de l'année 2026. Ceci dit, l'outil de la RHT est l'outil le plus adapté pour passer ce cap conjoncturellement difficile qui est lié à une problématique purement horlogère.
Il faudra aussi que les cantons volent au secours de certaines entreprises, selon vous, avec des soutiens financiers ?
On a pu par exemple constater durant le Covid une action qui a été saluée du côté du canton de Berne, qui a décidé de soutenir les capacités d'innovation dans les entreprises dans une phase compliquée, ce qui a permis à beaucoup d'entre elles de ressortir de ces quelques mois compliqués avec plus d'efficacité ou des nouveaux produits. Ça a été extrêmement apprécié. C'est une logique qui devrait être généralisée, passée à l'échelon fédéral, et nous y emploierons en 2025.
Merci Patrick Linder d'avoir été quelques instants en direct avec nous. Bonne journée à vous.
Merci.
Le groupe Raiffeisen perd son directeur. Heinz Huber abandonne la direction du deuxième groupe bancaire suisse à la fin de l'année. Il rejoint la banque cantonale des Grisons. Bonjour Nicolas Rosset.
Bonjour.
On peut parler d'une énorme surprise.
C'est une énorme surprise, même à l'interne. Rien ne laissait supposer que Heinz Huber quitte Raiffeisen, une banque qu'il a rejoint en 2019 en pleine tourmente. Souvenez-vous, Raiffeisen venait alors de perdre deux directeurs généraux, Pirin Vincenz, emprisonné pendant 3 mois, accusé de conflit d'intérêts, et son successeur, Patrick Giesel, qui n'avait pas réussi à stabiliser le deuxième groupe bancaire suisse. Heinz Huber, spécialiste du marché hypothécaire, aura réussi non seulement à stabiliser, mais aussi à relancer les 220 banques qui composent le groupe. Le bilan a augmenté d'un tiers en 6 ans, c'est énorme, et il va passer, et c'est un petit scoop, les 300 milliards de francs pour la première fois cette année. Heinz Huber aura travaillé dans les 3 plus grandes banques suisses, UBS, Crédit Suisse, Raiffeisen. Il prendra donc dans 6 mois, vous l'avez dit, la présidence de la banque cantonale des Grisons. Il part comme il est arrivé. Il y a 6 ans, sa nomination à la tête de Raiffeisen avait surpris tout le monde.
Merci Nicolas Rosset. Il faut une meilleure surveillance des gravières dans le canton de Fribourg. C'est l'avis du Grand Conseil qui a décidé hier de serrer la vis. Mesure du bruit, respect des règles environnementales. Le canton sera chargé de suivre de plus près les activités des exploitants. Bonjour Mehdi Piquan.
Bonjour.
Vous êtes à Fribourg. Alors les gravières, c'est un sujet émotionnel en ce moment dans le canton. Avec ce vote, les députés souhaitent restaurer la confiance, c'est ça ?
Oui, absolument, parce que Fribourg planche sur un nouveau plan gravière avec des projets d'extension qui suscitent actuellement une très forte résistance. Plusieurs lieux ont été identifiés pour répondre aux besoins en construction du canton. Mais la mise en consultation de ce document a débouché sur une véritable déferlante d'avis défavorables, à commencer par des riverains directement impactés par ces projets et qui ont de plus en plus de peine à accepter les désagréments causés par ces gravières. Il y a aujourd'hui un vrai climat de méfiance. Il est urgent de rassurer la population, estime le député socialiste Grégoire Koupski.
Aujourd'hui, il y a une vraie inquiétude de la population par rapport à l'exploitation des gravières. Il y a de la poussière, des particules fines. Et puis, il y a eu des excès de certains exploitants par rapport au périmètre d'exploitation. Et je crois qu'il nous faut un vrai contrôle parce qu'aujourd'hui, c'est une gabegie. C'est tantôt la commune, tantôt le préfet, tantôt le canton, selon la zone, selon le type de problématique. Et il faut clarifier les choses.
Alors concrètement, ce sont les exploitants de gravières eux-mêmes qui devraient payer un émolument qui servira ensuite à financer de nouveaux postes au sein de l'État pour assurer ses contrôles. Le Conseil d'État fribourgeois qui soutenait également ce texte a maintenant 1 année pour arriver avec un projet de loi.
Mehdi Piquan, direct de Fribourg, merci. 22 morts, près de 1400 blessés, le bilan toujours très provisoire à Mayotte, 4 jours après le passage du cyclone Chido. Et les autorités redoutent plusieurs centaines de morts, voire quelques milliers. Le président Emmanuel Macron est attendu sur place demain. En attendant, le département le plus pauvre de France a vécu sa première nuit de couvre-feu. Julie Rosis, que sait-on de la situation sécuritaire dans l'archipel ?
Alors la situation est plutôt calme, malgré un cas de pillage rapporté par un journaliste de France Info dans un bidon ville de la capitale, un quartier très pauvre où tout a été détruit par le cyclone et où la situation est assez désespérée. Les pilleurs cherchaient en fait de la nourriture.
Mais l'aide alimentaire se fait toujours attendre.
Oui, 4 jours après la catastrophe, une première distribution est prévue aujourd'hui sur Grande Terre, la principale île de l'archipel. Plus de 100 tonnes d'eau et de nourriture selon le ministre de l'Intérieur. Et demain, une nouvelle cargaison de 180 tonnes doit arriver à bord d'un navire appareillé depuis la Réunion. Les autorités françaises ont aussi annoncé l'installation d'un hôpital de campagne d'ici la fin de la semaine ou le début de la prochaine pour soutenir le centre hospitalier de Mayotte qui a été endommagé et qui est débordé. Et puis, autre priorité, l'envoi de tentes et de bâches pour rebâtir des abris, même si dans l'urgence, eh bien, beaucoup d'habitants ont déjà commencé à déblayer et à reconstruire.
Merci Julie Rosis. Dans l'actualité internationale aussi, Moscou a annoncé ce matin l'arrestation de l'assassin présumé du général Kirillov, mort hier dans l'explosion d'une trottinette piégée. Il s'agit d'un Ouzbek, ce suspect qui a reconnu avoir été recruté par les services spéciaux ukrainiens lors de son interrogatoire par les enquêteurs. Correspondance à Moscou, signé Jean-Didier Revoin.
Le Kremlin s'est félicité ce matin de la rapidité du travail des enquêteurs et pour son porte-parole, Dmitri Peskov, cette arrestation justifie pleinement les opérations militaires menées par Moscou contre ce qu'il a qualifié de régime nazi de Kiev. Des propos basés sur les aveux du suspect dont on ne connaît pas l'identité et qui ont été diffusés dans une vidéo par le FSB. Elle met en évidence une opération complexe. L'accusé aurait obtenu 100 000 $ et des garanties de pouvoir émigrer en Europe pour déposer des explosifs sur une trottinette placée à l'entrée du bâtiment où vivait le général. Une caméra, disposée dans une voiture louée et garée à proximité, permettait aux organisateurs de l'attentat de suivre en temps réel, depuis la ville de Dnipro en Ukraine, les allées et venues. Ils auraient alors actionné les explosifs au moment où le commandant des forces russes de défense radiologique, chimique et biologique et son assistant sont sortis de l'immeuble. L'accusé risque des peines allant jusqu'à la réclusion à vie pour assassinat, attentat et trafic d'armes, ont encore fait savoir les services de sécurité. Jean-Didier Revoin pour RTS, Moscou.
Et on prend le large à présent en direction de l'océan Austral. Le Vendée Globe, la célèbre course à voile autour du monde en solitaire, sans assistance et sans escale, vient de franchir son 38e jour de compétition. 3 Suisses participent à cette 10e édition. Les jeunes voix, Justine Métro, Alan Roura, ainsi que le Zurichois Olivier R. En direct depuis son bateau ce matin, Alan Roura a expliqué les conditions météorologiques dantesques qu'il devait affronter au sud de l'Australie. C'était dans la matinale sur RTS Première.
Il y a eu des moments un peu de doute. Là, les dernières 2 semaines ont été vraiment très difficiles en termes de météo. Et on se demande si on va tenir en fait pendant des semaines et des semaines comme ça, parce que c'est pas humain ce qu'on a vécu. Mais en fait, on tient, mine de rien, le corps humain est vachement bien fait. Alors la peur, j'ai un bateau qui est assez réconfortant, donc voilà, il m'a pas encore fait vraiment peur. Si, j'ai eu une grosse pointe de vitesse là où j'ai dépassé les 40 nœuds de vitesse, où là je me suis vraiment senti tout petit. Mais sinon, non, ça va jusqu'à là, ça se passe bien.
Les vagues, vous disiez, c'est très difficile ces conditions, c'est pas humain. Pour qu'on se rende compte, nous, néophytes du côté de Lausanne, c'est des vagues à combien de mètres de haut?
Les plus grosses, elles doivent faire peut-être 8 mètres. Il faut imaginer dans l'océan Indien, les vagues sont croisées. Donc vous allez avoir une vague qui vient de face et une vague très, très étrange, très forte, qui casse. Et qui sont casse-bateau. Là, cette nuit, je me suis fait coucher par une déferlante. On ne prévient pas, on ne la voit pas arriver. Et on entend juste le bateau se faire rouler dedans. Et donc, il faut tirer un peu les fesses. Mais ouais, non, les conditions sont difficiles. Ouais.
Et ça décoiffe Alan Roura au micro de Valérie Awert au pointage de 11h. Alan Roura pointe à la 19e position. Justine Métro est la mieux classée, elle est 11e alors que Oliver R est 31e. Et si vous avez des enfants en bas âge, vous connaissez sûrement ce petit chien bleu, il est australien. Bluey, série d'animation, sera adaptée au cinéma en 2027. Anne Fournier, une annonce de Disney qui confirme un succès mondial.
Oui Blandine, je suis sûre que ça vous rappelle quelque chose.
Maman ! Papa ! Bluey ! Bingo, je vais finir avant toi !
Bluey, ne parle pas la bouche pleine et ne t'agite pas comme ça, ce sont de mauvaises manières.
Bluey a été lancée en 2018. Cette série est devenue très vite un phénomène mondial, la plus regardée sur Disney+, et ce, dans 140 pays. Elle met en scène une famille de chiens, des bouviers australiens, confrontés aux petites choses qui marquent le quotidien des enfants et de leurs parents. Bluey, l'héroïne, a 6 ans et une petite sœur. Alors pour expliquer ce succès déjà très analysé, on invoque la simplicité et la familiarité des histoires. La série permettrait aux enfants de mieux verbaliser leurs émotions. Côté parents, elle leur apprendrait à rester positif et à essayer de faire de leur mieux. Sacré programme. Alors en guise de conclusion, un peu de philosophie.
Pourquoi est-ce qu'on doit dormir? Pourquoi on ne peut pas rester éveillé toute la nuit?
Parce que le monde est fait comme ça.
Voilà qui est dit. Merci Anne Fournier, pragmatique, ce papa de Bluey.
Le 12-30, Blandine Lévite.
Un paysage breton devenu désertique, jaune, orange, le ciel bleu comme un ciel d'été. C'est la couverture d'une bande dessinée, L'urgence de l'eau. On est en Bretagne par un été caniculaire. L'arrosage est assorti de restrictions et deux personnages font équipe pour un road movie à travers la Bretagne sur la question de l'eau. Viendra-t-elle à manquer? De quelle source vient l'eau du robinet? L'auteur de cette BD, c'est Christian Baudu, il est documentariste, cofondateur de l'association Les Hydrophiles, une plateforme de réflexion autour des questions de l'eau en Bretagne. Bande dessinée et documentaire, donc je lui ai demandé quelle était l'intrigue.
Il s'agit donc d'un écrivain à succès qui s'appelle Quentin Tignac, donc il y a un petit clin d'œil que certains comprendront. C'est un Tintin attardé, on va dire, un grand ado urbain, un peu bobo, qui pense avoir tout compris sur les questions d'environnement. Et donc il rencontre une jeune journaliste freelance qui s'appelle Gwenaëlle Talbecq, qui lui dit « Écoute, ton livre, c'est totalement bourré de clichés, tu es vraiment à la surface des choses. Si tu veux, je t'emmènerai voir en Bretagne des acteurs clés, donc des personnalités qui ont réfléchi donc dans différents domaines, des scientifiques, des élus, des responsables associatifs, des journalistes, des écrivains, etc. » Donc j'ai été voir ces personnes, je les ai filmées. Donc il y a une chaîne YouTube qui est associée à la BD. Et donc l'idée, c'était d'associer une fiction avec des acteurs réels et donc à travers une petite histoire entre deux personnages.
Christian Baudu, on dit souvent que de la Bretagne, que c'est une région pluvieuse et donc qu'elle est plus favorisée que les autres dans une perspective de changement climatique. C'est pas le cas?
Non, je dirais même que c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'effectivement, jusqu'en 2022, on n'aurait jamais imaginé que la Bretagne puisse manquer d'eau. Moi, j'ai choisi la Bretagne comme cadre, d'une part parce que j'y réside, mais surtout parce que chaque territoire hydrographique est différent. Donc, il fallait bien choisir un cas d'école. En l'occurrence, la Bretagne s'est imposée. C'est vrai que jusqu'en 2022, on n'avait pas trop de problèmes avec la ressource, mais on a vu en 2022 les limites de notre territoire, notamment puisque nous, essentiellement, notre ressources en eau se situent en nappe de surface et non pas en nappe profonde qu'on appelle des nappes inertielles. C'est dû à notre sous-sol géologique qui est fait essentiellement de granit et de schiste. Donc on a un ruissellement qui est très important. Quasiment toute l'eau, les pluies dites efficaces en Bretagne, on en recueille à peine 3%. Donc c'est les pluies efficaces qui ressourcent les nappes. Bon, il se trouve que cette année, il a beaucoup plu, donc on n'a pas trop de problèmes. Mais quand on a des périodes de tension et on va aller de plus en plus vers ces événements-là, c'est-à-dire des événements extrêmes qui vont se succéder, c'est-à-dire des périodes de sécheresse de plus en plus longues et puis des événements d'orage intenses qui créent des érosions des sols. Donc voilà, associé avec une urbanisation galopante et puis aussi une attractivité touristique en Bretagne qui est aussi importante, on peut se retrouver effectivement très très vite en période de crise.
Avec des rivières qui sont asséchées ou qui ont moins de débit qu'avant, c'est un peu ce que vous racontez dans le livre?
C'est ça, c'est ce que dit Jean Jouzel notamment, qui est un ancien vice-président du GIEC et qui annonce effectivement des baisses de niveau des cours d'eau de 10, 20 voire 30% dans les années à venir.
Le GIEC, le groupe intergouvernemental pour le climat.
C'est ça, tout à fait. Et donc, qu'on a du mal à entendre assez régulièrement, puisqu'en fait, les messages sont assez inquiétants. Et donc, on a un petit peu tendance à tourner la tête de l'autre côté. On le voit bien au niveau, en tout cas en France, il y a eu un plan eau de l'État qui est sorti en 2023, mais qui n'est pas du tout à la hauteur, on va dire, des enjeux. Donc, on plaide dans la BD, un des messages, c'est d'aller vers plus de sobriété. Une meilleure efficacité aussi des équipements en termes d'irrigation, etc. Et aussi, surtout, retrouver notre conscience de l'eau. C'est très important parce que si on a la conscience de notre lien à l'eau et puis savoir d'où vient l'eau, on va mieux la respecter. J'ai des exemples de groupements autonomes d'eau, par exemple, dans notre région, qui donc gèrent leurs propres ressources à partir d'une source. Donc, ce sont des réseaux privés. Eh bien, les agriculteurs font très, très attention à ce qu'ils mettent dans leur champ, parce qu'ils savent que c'est l'eau qu'ils vont consommer.
Mmh. Et d'un point de vue individuel, je retiens ce chiffre, on consomme en France 125 litres par jour, dont 50 pour l'hygiène, 25 pour les toilettes. C'est, je crois, 6 litres pour la vaisselle et puis 1 litre et demi pour boire, c'est ça ?
Alors, en Bretagne, on consomme un petit peu moins d'eau. Nous, effectivement, on est à 125 litres. La moyenne nationale, elle était établie autour de 150 litres. Mais c'est un chiffre en augmentation. Il faut savoir qu'à Los Angeles, par exemple, l'équivalent, c'est 800 litres par jour. Donc, on n'est pas les plus mauvais élèves, mais on est, on va dire, dans une zone de confort et il va falloir qu'on fasse des efforts en termes de sobriété parce que, voilà, la ressource va diminuer pour différentes raisons, évidemment à cause du réchauffement climatique, puisque pour un degré de plus dans l'atmosphère, c'est 7% d'eau qui est condensée dans l'atmosphère. Et donc, on s'attend à une augmentation de 2 voire 3 degrés d'ici à horizon 2060-2070. Donc, vous faites le calcul, ça veut dire quasiment un tiers de l'eau disponible en moins. Et avec une augmentation de la démographie, notamment en Bretagne, on attend 400 000 habitants de plus à l'horizon 2040. Donc ça va causer des problèmes de conflits, évidemment, d'usage.
Conflits entre les différents secteurs. Qui sont les plus gourmands en eau ? On évoquait les individus, les familles, 150 litres par jour et par personne. Les autres, les industriels, il y a les centrales nucléaires qui demandent également beaucoup d'eau. Pour les refroidissements ?
Voilà, il faut faire un distinguo entre l'eau prélevée et l'eau consommée. Effectivement, en termes d'eau prélevée, ce sont les centrales qui prélèvent le plus d'eau, avec le délicat problème de réchauffement de l'eau, puisque normalement, on ne peut pas rejeter de l'eau à plus de 3 degrés de l'eau prélevée. Mais en 2022, on a vu des dérogations d'ailleurs à ce titre-là. Donc les poissons, la faune et la flore souffrent énormément. Elles sont soumises à des grosses pressions. Mais l'eau consommée, c'est donc de l'eau qui ne retourne pas directement au milieu, alors que l'eau prélevée, toute l'eau que vous allez prélever pour votre douche, etc., ça retourne par le petit cycle de l'eau, ça va retourner au milieu. Les plus gros consommateurs d'eau prélevée, c'est l'agriculture essentiellement, puisqu'en fait, c'est de l'eau qui est mise dans les végétaux. Et donc, les végétaux, évidemment, c'est une eau qui retournera au milieu, mais beaucoup plus tard, puisqu'en fait, on boit toujours l'eau des dinosaures. On a le même, grosso modo, la même quantité d'eau sur Terre. Bon, elle est dégradée en qualité, ça c'est un autre problème. Mais on a une eau dont le retour au milieu est retardé de plusieurs années.
Quelle solution, Christian Baudu, quand on a vu les problèmes, cette urgence de l'eau, quelle solution vous voyez ?
Les solutions, la solution qui s'impose, c'est la sobriété. Voilà. On peut aussi penser à des solutions technologiques. Bon, c'est vrai que dans la BD, Quentin, au départ, il est technosolutionniste, c'est-à-dire qu'il fait confiance aux technologies pour nous sauver, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on n'aura pas besoin de changer notre mode de vie, on va trouver des solutions, on va dessaler l'eau de mer, on va réinjecter de l'eau dans les nappes, etc. etc. Les solutions technologiques ne suffiront pas à nous épargner la raréfaction de la ressource. Donc il faut qu'on aille nécessairement vers une plus grande sobriété. Ça implique donc dans nos modes de vie une remise en question aussi, et puis aussi changer le modèle agricole. Il faut penser dès maintenant à une transition.
Christian Baudu, l'auteur de L'urgence de l'eau aux éditions Locus Solus. L'illustration est signée Julie Wo. Et puis du cinéma pour terminer, c'était le film suisse encore en lice dans la course aux Oscars pour celui du meilleur film étranger, Reinas, réalisé par Claudia Reinicke, récompensé par le prix du public au dernier festival de Locarno. Il n'a pas été retenu dans la liste finale par l'Académie des Oscars. On retient quand même la date de cette cérémonie qui aura lieu le 2 mars prochain à Hollywood. La météo et un temps seulement en partie ensoleillé cet après-midi, des nuages et des températures élevées pour la saison, 7 à 10 degrés en plaine comme en moyenne montagne. Demain, des nuages et des précipitations à partir de l'ouest le matin. La limite pluie-neige va baisser à 1000 mètres en soirée, 600 mètres en cours de nuit et au mercure entre 4 et 9 degrés pour demain.
La vie à peu près. Florence Grivel.
Cette semaine, nous suivons le parcours intense, rythmé, voyageur du musicien saxophoniste de jazz Nicolas Masson. Soyez les bienvenus, nous sommes ensemble jusqu'à 14h. Nicolas Masson a le souvenir tenace quand il s'agit de son premier choc en jazz. Il a 17 ans. Il assiste à un concert du World Saxophone Quartet. Du blues, hors du blues et dedans pourtant. Une position qui plaît beaucoup au jeune Nicolas d'alors, qui vient du skateboard, de la contre-culture, de l'esthétique du bitume et de l'urbain en mouvement. Nicolas Masson débute ses études musicales à la guitare classique à l'âge de 8 ans. À 16 ans, il passe de la guitare au saxophone. Et en 1992, il rencontre Cecil Taylor et il étudie avec Frank Lowe et Makanda McIntyre à New York. New York, leçon de vie, ruche, sa vision romantique du métier de musicien va être réajustée par d'autres réels. La passion, un certain chaos, de la solidarité sur le fil de l'impro, et ça lui va très bien. Se former et jouer à New York, ainsi se nomme ce troisième épisode au bon soin Daniel Éveillé.
Bonjour Nicolas Masson.
Bonjour.
Nous sommes quittés hier à New York, vous arrivez à la petite vingtaine, 19, 20 ans, avec Cecil Taylor qui vous souhaite en gros bonne chance pour vos premières notes comme saxophoniste dans cette ville. Est-ce que New York correspond à la vision, à votre rêve? Est-ce que vous avez imaginé cette ville au moment où vous arrivez là-bas?
Comme tout le monde, je pense, la première fois qu'on arrive à New York, c'est complètement fascinant. Et puis, mais j'ai eu beaucoup de chance, en fait, ça s'est pas arrêté seulement au fait de rencontrer Cecil Taylor le premier soir. C'est que, justement, cette autre personne que j'ai rencontrée au cours de cette même soirée, comme je l'ai dit dans notre émission d'hier, je l'ai retrouvée donc le lendemain pour aller boire un verre ensemble, pour qu'il me donne quelques adresses de lieux où jouer. Il s'appelait J.R. Mitchell. Et il me dit « Ah, où est-ce que tu loges ?» Puis j'avais un hôtel vraiment ultra pourri, Midtown, vraiment c'était minuscule, il y avait à peine la place pour le lit, il y avait les cafards, il y avait tout ça. Une seule fois, j'ai essayé de faire une note et puis il y a tout de suite le gars du lobby qui est venu frapper à la porte, etc. Donc, en plus, ça me coûtait cher, je n'avais pas les sous. Puis il me dit « Mais pourquoi tu es à l'hôtel ? Viens loger chez moi, j'ai de la place. » Alors c'était pareil qu'à Oulan-Bator, je n'osais pas trop, je débarquais à New York, je me dis « Bon... » Là, j'étais un peu réticent. Et puis, en fait, il était hyper sympa et j'ai fini effectivement par habiter chez lui. Il m'a un peu pris sous son aile et il vivait dans un immeuble qui existe toujours, que je suis allé voir là, j'étais en avril dernier à New York, qui s'appelle Manhattan Plaza, qui est sur la 43e rue, qui est en fait un immeuble qui est subventionné par la ville de New York pour les artistes. Et donc, lui, il vivait là. Et c'était juste incroyable pour moi, parce que dans cet immeuble, il y avait plein d'artistes qui vivaient. Il y avait à la fois des plasticiens, des musiciens, des acteurs. Donc tous les jours, je rencontrais des gens. C'était assez fou. Ces gens qu'on connaissait un peu plus à l'époque. Il y avait Bobby Watson qui était là, qui était un saxophoniste alto. Je sais pas s'il vit toujours d'ailleurs. Je me rappelle avoir croisé dans le lobby Bill Frisell. Il y avait Joey Barron que j'ai vu aussi. C'est là qu'avait vécu. Enfin, fini sa vie, en fait, Dexter Gordon, sa femme, habitait encore là. Il y avait aussi Sue Mingus, la veuve de Charles Mingus, qui vivait dans cet immeuble. Donc, moi, j'ai été balancé là-dedans et j'ai quasiment pas parlé à une personne blanche pendant plusieurs semaines. J'étais dans ce milieu afro-américain, un peu de ces survivants de la scène loft, free jazz new-yorkais.
Pourquoi survivant ?
Survivant parce que c'est ça, parce que les lofts c'était à Soho, puis à cette époque-là, Soho ça avait déjà commencé à être acheté par des gens fortunés, par les galeries d'art, etc. Donc tous ces artistes de cette époque-là, surtout les Afro-Américains, avaient été repoussés plus loin. Ceux qui avaient de la chance, comme ceux que j'avais rencontrés, étaient bien logés ici, mais beaucoup vivaient beaucoup plus loin, dans le Bronx ou à Harlem. Donc je dis aux survivants, effectivement, parce qu'il restait plus grand-chose de cette culture-là, si ce n'est les gens qui en avaient fait partie. Et je voyais notamment très souvent Fred Hopkins, qui était un contrebassiste, membre du trio de Henry Thurgill, qui s'appelait Air, qui était un trio très important de cette époque-là. Donc lui, je le voyais très souvent. Il m'emmenait au Village Vanguard, parce qu'il jouait avec Kenny Burrell à cette époque. Donc voilà, il m'emmenait partout, il me traînait dans les répétitions à Harlem. Et surtout, je pouvais jouer aussi avec ces gens, enfin comme ça, de manière informelle. J'ai pas fait de concert ou quoi, mais
vous alliez au jam,
Ouais, mais c'était des jams à la maison. On pouvait jouer dans l'appartement, donc ça, c'était chouette. Il y avait même, il y avait un local de répétition. On pouvait s'inscrire, on pouvait aller pratiquer. Donc j'allais faire mes heures de saxophone tous les jours dans le local, dans l'immeuble. Et puis surtout de rencontrer tous ces gens, puis de voir ce que c'était réellement qu'être musicien de jazz et improvisateur. Et ça avait un tout autre sens pour moi, venant de Genève, de la Suisse, et débarquer dans cette communauté, et puis d'être une minorité dans une minorité, quelque part, d'être musicien, c'est une chose, mais de faire l'improvisation, c'est autre chose, de faire du free jazz, c'est encore autre chose, d'être afro-américain, c'est encore une autre. Voilà, c'était une leçon de vie incroyable pour moi, en fait, de voir aussi l'engagement de tous ces musiciens, et de payer aussi le prix de cet engagement, qui se paye en précarité quand même. Et puis certains d'entre eux, enfin surtout un qui était un de mes profs, qui était un magnifique saxophoniste de free jazz, qui s'appelle Frank Lowe, qui est décédé, qui avait des gros soucis de drogue. Et pour moi, c'était...
C'était l'histoire qui devenait réelle.
Ouais, c'est ça, c'est vraiment, puis vraiment un choc. Je n'avais pas du tout anticipé ça, je n'avais pas... On n'avait pas. J'avais cette vision romantique, effectivement, depuis mon petit Genève. Mais c'était incroyable. Et c'était merveilleux aussi, en même temps, de voir la générosité de ces musiciens qui m'accueillaient. Parce que je pense qu'ils voyaient juste ce petit mec de Genève qui adorait cette musique, qui était passionné, puis qui était juste là pour ça, pour rien d'autre. Et ils voulaient m'aider.
Et donc vous preniez des cours, enfin, comment ça s'appelait? Oui. Des cours privés, des cours informels, des cours...
Non, je prenais des cours privés, donc j'ai pris des cours avec Frank Lowe, justement. Alors, c'était un petit peu chaotique, parce que ça dépendait un peu de son état. ça m'arrivait des fois qu'il m'appelle pour dire, ah ben viens, on va bosser un peu, puisqu'il habitait juste quelques étages au-dessus, puis j'arrivais chez lui, puis il était intégralement nu, il s'en rendait même pas compte, et chez lui, il n'y avait plus rien, parce que je pense que des dealers étaient venus, ils avaient tout pris. Et puis, voilà, c'était des situations assez curieuses. Mais c'était quand même un super prof. Il m'a appris plein de choses. Et une des révélations aussi pour moi, parce que j'avais ce côté un peu snob aussi, où je me disais, ah, la tradition, OK, c'est bien, mais ce qu'il faut, c'est vraiment... Voilà, moi, j'aimais le free jazz et tout. Puis, en fait, ce qui me faisait travailler, c'était des vieux solos de Dexter Gordon, de Don Byas, et ce que je n'avais pas du tout compris. Je n'avais pas compris, en fait, l'attachement à la tradition, le lien... qui existaient, qui étaient toujours présents, même si leur quotidien, la musique qu'ils produisaient au quotidien ressemblait assez peu de choses à la musique des ancêtres, des générations précédentes, c'était quand même toujours présent. Donc voilà, j'étudiais avec lui, j'étudiais aussi avec Ken Makanda McIntyre.
Saxophoniste aussi.
Multi-instrumentiste, il joue aussi du hautbois, des flûtes, etc. Il faisait partie du Liberation Music Orchestra de Carla Bley. de Charlie Eden. Je les lis toujours parce qu'ils ont été très proches dans les chemins musicaux.
Et c'était aussi cette scène du free jazz. Enfin, c'était vraiment des figures éminentes.
Voilà, c'est ça. Et il avait fait un disque aussi avec Eric Dolphy. Son premier disque, il l'avait fait avec Eric Dolphy. Et on a beaucoup travaillé sur le souffle et le son, essentiellement avec lui. Pas tellement sur le langage, comme c'était le cas avec Frank Lowe, mais beaucoup plus sur les aspects de sonorité et de souffle.
Donc, comment exploiter tous les potentialités de l'instrument, en
fait? Oui, c'est ça. Il m'a appris à respirer mieux, m'a rendu conscient de l'importance de la voix qu'on portait à travers un instrument avant. Alors, il était assez, très direct et assez dur comme ça, mais en même temps très chaleureux. Et il m'a même aidé à trouver un appartement. Il habitait dans le Spanish Harlem, en fait. Et il m'avait trouvé un appartement dans le quartier que j'ai fini par prendre parce que simplement, j'avais plus de souffle, il fallait que je rentre en Suisse. Mais voilà, dans mes envies, bien sûr, je voulais rester et puis essayer de trouver un petit job et puis pouvoir...
Vivre ailleurs. Vous jouiez du saxophone ténor et soprano à l'époque?
Ténor, uniquement, en fait. Quand j'étais adolescent, j'ai joué aussi un peu du soprano. J'en louais, la clarinette basse aussi. Une fois de plus, sous l'influence de David Murray, qui jouait de la clarinette basse aussi. mais aussi pour Eric Dolphy, que j'adorais. Mais autrement, j'avais uniquement un ténor avec moi à New York.
Et donc, vous restez aussi 6 mois à New York?
Je suis resté 4 mois au total aux États-Unis. Et puis,
jusqu'à la fin des économies.
Jusqu'à la fin des économies, exactement.
Vous rentrez en Suisse, à Genève, avec l'idée de revenir quand même.
Voilà, c'est ça, avec l'idée de revenir, mais surtout l'idée de cette fois de me poser et puis d'étudier sérieusement la musique.
Donc là, vous savez, en fait, vous avez choisi la voie parce que vous hésitiez encore avec des études universitaires d'anthropologie, ethnologie.
Voilà. Alors, j'ai eu encore quelques envies comme ça, je pense. Je me rappelle être allé me renseigner parce que je savais qu'à partir de 25 ans, même sans maturité, on pouvait faire des études. J'avais envie d'étudier le chinois à ce moment aussi. Mais voilà, c'est devenu finalement assez rapidement clair que j'allais ranger mon appareil photo puis que j'allais me concentrer sur la musique.
Oui, parce que quand vous êtes à New York est comme une ville très photogénique aussi. Mm-hmm. Vous faites de la photo ou...
Presque pas. J'ai quelques photos de Jerry Mitchell, j'ai quelques photos d'amis qu'on allait voir, notamment une très vieille dame afro-américaine qui a été une des rares femmes avocates afro-américaines aux États-Unis qui avait défendu une des ex-femmes de Charlie Parker quand il est décédé. C'était une femme assez incroyable, en fait. Je dois avoir ça quelque part. J'ai pas revu ces photos une fois de plus depuis longtemps. J'ai fait quelques portraits de cette dame chez elle, qui était vraiment très âgée. Mais autrement, j'ai fait très très peu de photos aux États-Unis. Voilà, j'avais décidé que c'était pas pour moi, que j'étais trop nul, et puis que je voulais faire que de la musique.
Et à Genève, vous prenez des cours de musique, donc vous vous inscrivez au conservatoire populaire.
Voilà, je me suis inscrit au conservatoire populaire. Alors, il y a pas eu tout de suite de la place pour moi, parce que je suis arrivé, je sais plus quand, en milieu d'année, quelque chose comme ça. Donc les classes étaient faites, mais je me rappelle avoir été auditionné chez Maurice Magnoni, qui était le professeur au Conservatoire populaire ici à Genève. Puis il m'a dit bon, on verra si jamais. Et puis il y a un élève, je crois, qui a arrêté en cours d'année, et puis j'ai pu intégrer sa classe. Et voilà, c'est comme ça que j'ai commencé mes études au Conservatoire populaire.
Et pour Maurice Magnoni, vous étiez plutôt un bon élément à l'époque, comment ?
Ah, j'en sais rien du tout.
Je
ne sais pas du tout, en fait. J'ai pas beaucoup de contacts avec Maurice actuellement. On se voit un petit peu par-ci, par-là, de loin en loin. Je me rappelle juste de beaucoup de choses qu'il m'a enseignées, qui continuent de vivre avec moi. Après, peut-être que mes études auprès de lui se sont terminées, peut-être pour lui, sur une note un petit peu frustrante, disons, parce que la dernière année, je lui ai dit que je voulais arrêter de prendre les cours avec lui, que je continuais ma formation, que j'allais faire le diplôme, mais que je voulais plus suivre les cours avec lui. Alors, c'était pas que je l'aimais plus, mais mais j'avais des envies musicales dans une autre direction, et j'avais vraiment envie d'étudier sérieusement certaines choses qui étaient très concrètes par rapport à la musique et que lui ne m'enseignait pas. Et j'avais l'impression que ça entrait en conflit avec les besoins que j'avais à ce moment-là. Et j'allais chercher ces informations auprès d'autres personnes à ce moment-là. Et
vous aviez besoin de quoi, Nicolas Masson, à ce moment-là? C'était quoi vos envies?
C'est une époque où on commençait à émerger une nouvelle génération de musiciens comme Mark Turner, comme Kurt Rosenwinkel, ces gens-là. Et je me suis intéressé à ce langage. Et à cette époque-là, peut-être que Maurice est revenu là-dessus plus tard, mais c'est un langage que lui n'enseignait pas. Et c'était... je me disais simplement qu'il aurait été un merveilleux prof pour moi à cette époque-là si j'étais déjà un peu plus formé, en fait. Parce qu'il avait cette vision beaucoup plus globale de l'improvisateur, des choix esthétiques. Il a quand même une grande culture musicale et extra-musicale, d'ailleurs. Et pour ça, il m'a apporté beaucoup pendant pas mal d'années. Mais à un moment donné, j'ai vraiment eu envie d'aller plus concrètement mettre les mains dans le cambouis, comme ça.
Et si on devait expliquer justement, peut-être pour les personnes qui connaissent moins aussi ces différences esthétiques, mm-hmm, du jazz, de l'improvisation libre, justement, ce langage, comment est-ce qu'on pourrait l'exprimer ou le décrire, Nicolas Masson, par exemple, l'univers esthétique d'un Rosenwinkel?
Bon, on a fait un petit peu un saut quand même, parce que c'est pas que je suis passé d'un seul coup non plus de Cecil Taylor à Mark Turner. Il y a toute cette période quand même que j'ai découverte d'ailleurs lors de mon premier voyage, où j'ai été fasciné par la musique de John Zorn, de Tim Byrne. Et ça c'était une phase importante où c'était une ouverture sur une autre scène aussi.
Plus radicale?
Un peu plus radical, avec des liens, ouais, puis des liens aussi avec la musique contemporaine, en tout cas pour ce qui est de John Zorn, qui est quand même une musique qui m'a beaucoup intéressé quand j'étais adolescent, avant que je parte en voyage, etc. Dans ma boulimie de la discothèque municipale, j'empruntais beaucoup, et j'allais voir beaucoup de concerts d'ailleurs aussi de musique contemporaine. Donc là, ça m'a intéressé beaucoup ces liens aussi. Entre l'improvisation libertaire, mais aussi le matériau écrit qui emprunte d'autres chemins et qui a des emprunts vers d'autres langages aussi. Et pas seulement de la musique contemporaine, il y avait aussi la musique de Dave Douglas à l'époque, qui s'intéresse à la musique des Balkans. Voilà, j'ai toute cette phase-là. Et dans cette période-là, je pense que c'était absolument compatible avec l'enseignement de Maurice, en fait. Mais effectivement, après, me suis intéressé à cette nouvelle scène qui revenait en fait un peu plus à des sources proches du standard de jazz en fait, mais par le canal de l'école de Lenny Tristano. Donc voilà, c'est ça que j'ai eu envie d'étudier plus précisément. Et je pense que Maurice a été intéressé par ça à une certaine période, et peut-être qu'il l'est maintenant. Mais c'est ça que j'ai eu vraiment envie d'étudier, c'est-à-dire un peu plus revenir à la tradition. Et puis savoir mieux jouer sur des formes, jouer l'harmonie, être capable de réharmoniser sur le moment en improvisant, des grilles d'accords aussi. Voilà.
Et où est-ce que vous étudiez tout ça? Parce qu'il n'y a pas encore de haute école de musique
non,
de jazz.
Non, pas du tout.
À Berne, enfin, il y a quand même la suite Jazz School à Berne déjà.
C'est vrai, c'est vrai. Alors, je l'ai étudié en partie à New York parce que quand même toutes ces années, j'ai continué d'aller à New York, faire des voyages chaque année, une ou deux fois par année. Donc j'ai pris des cours avec des gens comme Chris Potter, comme Greg Tardy, mais j'ai aussi un ami que j'ai connu à l'AMR quand j'étais adolescent aussi, qui s'appelle Wad Talmore, qui est saxophoniste et compositeur, et qui lui vit à New York depuis très longtemps. Et alors lui, c'était un peu mon envoyé spécial à New York.
C'est le fixeur, comme on dit.
Voilà, exactement. Donc, qui chaque fois qu'il revenait, je lui demandais des cours, en fait. Et je demandais qu'il me mette au parfum, de savoir ce qui se passait vraiment. Et il m'a aussi connecté avec beaucoup de gens à New York. Et puis, il me donnait beaucoup d'informations, parce que lui, à l'époque, il étudiait à la Manhattan School of Music. Donc voilà, je pouvais avoir les informations presque de première main. Et donc je lui dois beaucoup aussi à ce niveau-là.
Et vous jouez avec des formations à Genève, justement à la fin des années 90. Enfin, vous n'avez pas encore vos trios ni quartets, on va y arriver. Mais vous jouez déjà avec beaucoup de gens qui gravitent autour de l'AMR.
Oui, oui. Alors j'étais dans plusieurs projets ici. À Genève, avec divers musiciens. Et puis après, j'ai formé un groupe à moi pour mon projet de récital, pour mes fins d'études au conservatoire populaire. C'était pas, parce qu'avant, il n'y avait pas encore, en fait, de haute école en jazz. En Suisse, ça n'existait pas. Il y avait des diplômes professionnels de jazz.
Et Berne ne vous intéressait pas?
Il y avait Berne. Non, pas plus que ça, en fait. Puis déjà, je ne parle pas allemand, en fait. Et pour diverses raisons, j'étais attaché à Genève aussi. Je travaillais aussi à Genève pendant mes études. J'avais des boulots, dont un comme photographe à l'opéra, qui évidemment qui me tenait à cœur, etc.
La photographie va, on va y revenir aussi, mais effectivement, ouais, vous reprenez en fait.
Voilà, la photo a fait des entrées, des sorties un peu comme ça au fil des années. Donc j'étais bien à Genève. Et je devais présenter mon récital de diplôme. Donc j'ai formé un groupe ici avec Martin Vizard au saxophone alto, et il y avait Alexandre Babel à la batterie, en fait, que j'avais connu aux ateliers, qui est maintenant percussionniste.
Musique contemporaine expérimentale, qui était directeur artistique pendant plusieurs années de Eclecto.
Eclecto, pour lequel j'ai fait des photos pendant plusieurs années aussi, et puis qui est en plus mon beau-frère, vu que j'ai fini par épouser sa sœur. Donc voilà, c'est très petit, hein, Genève. Donc bref, j'avais fait un groupe avec ces personnes-là, et un bassiste aussi, qui a un peu disparu, qui s'appelle Richard Vermeil. Et là, c'est un projet qui était très influencé par la musique de Tim Burns, qui, je trouve toujours d'ailleurs, qui a un système très intéressant comme contexte pour l'improvisation, entre le matériau écrit et le matériau improvisé, comment on passe de l'un à l'autre, comment on se donne des signaux, qu'est-ce qu'on utilise, etc. Donc j'étais pas mal influencé par ça, je pense, pour ce projet-là. Et c'était un peu l'embryon de mon premier groupe avec lequel j'ai enregistré à New York en 2000 ou 2001.
Awake, le premier album.
Exactement, c'est ce premier album que j'ai enregistré avec des musiciens new-yorkais à Brooklyn, là où j'habitais.
Le premier album comme leader finalement.
Oui, c'est ça.
Ensemble, Nicolas Masson. Ce premier album où vous êtes avec Ruth Johnson à la trompette, Erin Upswick à la contrebasse et Mark Ferber à la batterie.
Oui.
Donc aussi des musiciens qui viennent de l'environnement, je pense, nordique aussi, non?
Alors le contrebassiste est norvégien, effectivement, mais il avait étudié à la Manhattan School of Music aussi, alors, et puis il est toujours resté, il vit toujours là-bas d'ailleurs, il vit à Brooklyn. Et donc c'était des musiciens de la scène que j'avais rencontrés à travers mon copain Walt Talmor, et puis... Voilà, j'ai fait pas mal de sessions avec beaucoup de gens quand j'étais à New York là-bas, et j'ai eu envie de faire un premier disque. Donc j'ai utilisé une partie du répertoire que j'avais composé pour mon projet de récital au conservatoire avec ces personnes-là. On a répété, on a enregistré dans un chouette studio à Brooklyn. Et donc c'était mon premier album en tant que leader, oui.
Il y a bientôt 25 ans,
non ? Ouais, hélas, ça passe vite.
En le réécoutant, une esthétique assez, même complètement différente finalement de celle d'aujourd'hui, Nicolas Masson, cet album. Mais en même temps, des choses déjà en germe en fait, au niveau du souffle, du son, j'imagine de... Peut-être votre rapport à l'espace aussi, au rapport avec les instrumentistes, mais dans une énergie qui est très différente.
Oui, mais j'étais dans quelque chose de tout autre en fait. Et effectivement, c'était il y a 20 ans en plus, donc j'espère que j'ai un peu évolué ou changé d'ici là, que je ne peux pas rester bloqué. Oui, mais j'étais vraiment à fond sur toute cette scène entre justement bon, en fait sur plusieurs scènes, parce que c'était d'un côté toujours John Zorn, Tim Byrne, Dave Douglas, tous ces gens-là, mais aussi Mark Turner et les autres qui proposaient quelque chose de beaucoup plus contemporain sur des formes issues des formes standards, même si c'était une harmonie beaucoup plus évoluée, complexe, mais disons c'était quand même joué sur des formes. On joue sur une grille d'accords, etc. Donc il y a un peu des deux dans cet album. Effectivement, j'étais vraiment là-dedans. Mais c'est vrai que j'ai réécouté ça il y a pas si longtemps. Je sais pas que je réécoute tout le temps mes disques, loin de là. Mais c'est rigolo. Il y a des choses qui sont déjà là. Il y a effectivement un intérêt pour l'espace dans le son que j'ai gardé, qui était déjà là, alors que j'avais l'impression que c'est pas tellement un truc qui me préoccupait à l'époque. C'était pas quelque chose que je cherchais à faire consciemment, en tout cas, mais je pense que voilà, c'était là, quelque part, quand même.
Et ce disque, il est, vous l'avez dédié à Denise Masson-Dron, votre grand-mère ?
Non, c'était ma mère, que j'ai perdue quand j'avais 12 ans. Donc voilà, c'était une manière de lui rendre hommage, et puis aussi... parce que j'étais aux États-Unis, comme elle-même y avait été à peu près au même âge, j'imagine. Je sais pas quelle... Non, elle était, je pense qu'elle était un peu plus jeune quand elle y était. Mais voilà, c'était une manière de lui rendre hommage et puis de boucler une boucle.
De tisser, de convoquer finalement les personnes, les ancêtres, les personnes qui vous accompagnent, qui nous accompagnent, qui sont présentes toujours de votre travail. Et dans le booklet de l'album, dans le livret, il y a des photos déjà que vous avez prises.
Pour être honnête, j'ai pas.
Il y a une photo d'une rue en le regardant hier.
Ah oui, tout à fait.
Il y a une rue au crépuscule ou dans la nuit même.
Ah oui, c'est la
paysage
nuit.
Paysage assez urbain.
Oui, oui, c'était dans mon quartier à Park Slope à Brooklyn. Absolument. C'est vrai que c'est marrant, j'avais complètement oublié. C'est une période où je m'étais remis à faire de la photo. Par contre, là, j'ai fait beaucoup d'images à New York et un peu avant. Comme je le disais avant, j'ai travaillé plusieurs années comme photographe auxiliaire au Grand Théâtre de Genève, à l'Opéra. Donc, j'ai fait beaucoup de photos d'opéra et de ballet et assisté pour beaucoup de portraits. Donc là, la photo était revenue dans ma vie, effectivement, à ce stade-là.
Et associer justement une photo à l'environnement musical, pourquoi ? Parce que vous aviez pris cette photo de cette rue dans la nuit à Brooklyn ?
Oui, pour moi, c'était ce disque, je l'ai sorti quand j'étais revenu en Suisse, parce que j'ai vécu, après mes études ici au conservatoire, j'ai vécu pendant une année à New York. Et je suis rentré après un an, parce que j'avais plus de visa et plus de sous. Et c'était tellement... Bien sûr, ce disque, je l'ai publié ici sur un label suisse qui s'appelait Altrissioni. Je ne sais pas si ça existe toujours. Cette image, pour moi, elle était vraiment représentative du processus créatif de cet album. C'est une image que j'ai prise dans le quartier où se trouvait le studio. J'ai enregistré, qui était aussi mon quartier, enfin un peu plus au sud, mais quand même le même quartier. Donc voilà, pour moi, c'était mon rêve new-yorkais.
Nicolas Masson, on arrive à la fin. Ça passe très vite de notre troisième rencontre, de votre vie à peu près. Est-ce qu'on écouterait un extrait de cet album ?
Avec plaisir.
Merci beaucoup, Nicolas Masson. À demain.
Merci, à demain.
Magnolia de Nicolas Masson, tiré de l'album Awake, extrait de son premier disque enregistré à New York en 2002. Nicolas Masson, cette semaine, eh bien, il est au micro Daniel Éveillé. Demain, nous prendrons le pouls de son ECM. La vie à peu près, c'est une coproduction Daniel Éveillé et Florence Grivel, assistée d'Audrey Zano, réalisée par Gilles Ozaman. À demain. Belle suite de journée à vous sur Espace 2. Il est